De retour sur Radio Bulle, votre radio de proximité. Vous êtes avec Julien Duroux. On est ensemble pour la troisième partie de cette quotidienne gourmande, toujours sur le 93.6. Et on est avec Alain Séjudeau de la fromagerie Christine au marché couvert. On n'a pas quitté le plateau. C'est pour cette émission. On est resté sur le plateau. On n'a pas mis les pieds en cuisine parce qu'on a un énorme plateau de fromage. On est en train de les goûter les uns derrière les autres, de vous les faire découvrir. Et il nous en reste encore quelques-uns à découvrir. Alors là, on va sur des fromages qui sont aromatisés, hein, puisqu'on en a où on va retrouver des noix, des fleurs, d'autres où on va retrouver des truffes. Alors, on t'écoute, Alain. On passe sur quel fromage ?
Eh bien, on va parler du Morbier. Sur le Morbier. Le Morbier qui est un fromage qui est fait en deux traites, qui contient au milieu, est-ce que vous savez ce que c'est ce trait d'ailleurs au milieu ?
De la cendre ?
C'est de la cendre, tout à fait. C'est de la cendre, c'est pour protéger la première traite. Alors il y a une histoire autour de ça, je ne vais pas m'étaler, ça serait trop long, mais c'est une histoire de tricherie un petit peu entre un producteur de lait et qui voulait aller faire brouter chez le voisin parce qu'il avait une meilleure herbe. Donc il s'était entendu, il devait partager le lait, et puis un jour, il n'a pas tout tiré, l'autre, il ne connaissait rien, il ne l'a pas vu, et puis il a mis de la cendre, et le soir, il allait tirer la deuxième traite, c'est de là qu'est né le Morbier, quoi. En gros, c'est ça. Après, on est sur un 5 jours d'affinage, donc c'est un fromage qu'on peut faire fondre en raclette. Et justement, sur un 5 jours, comme je disais tout à l'heure, on vient adoucir le fromage, mais du fait qu'il y ait 5 jours, on garde quand même une force gustative plus importante.
Alors ce fromage, ben, on va le déguster. Pendant qu'on le déguste, Jérémy, tu vas nous expliquer, ce fromage, ce Morbier. Est-ce que toi, tu l'utilises alors comme ça ou cuit ? Est-ce que tu as eu l'occasion de l'utiliser dans des préparations ?
Alors oui, moi à titre perso, moi je l'adore en version raclette, hein, le Morbier, comme le disait Alain, c'est parce que c'est, je trouve que on retrouve bien les arômes et puis on lui donne de la puissance aussi. Après, moi en termes de en cuisine, le travailler tel quel, pas forcément. Maintenant, après moi là, c'est que je pourrais vous conseiller de le déguster, c'est par exemple en tranches assez fines sur un petit toast avec de toast de pain grillé avec un petit beurre demi-sel ou sur lequel on va rajouter un petit peu de fleur de sel. On va rajouter ces copeaux donc de Morbier et après on pourrait y rajouter aussi un petit peu de légumes crus tels que des radis. Là on rentre avec le radis noir, on a d'autres radis, on avait vu les peppermint, les red mint. Bertrand me reprendra aussi si je dis des bêtises. Et donc avec ça, on peut jouer aussi avec des fruits secs, avec des petits fruits secs. Là, en ce moment, on a des fruits qui sont assez sympas, avec de la poire qui va apporter un petit peu de fraîcheur et de douceur aussi. Et avec le Morbier, ça marche très très bien. Donc aussi bien comme on fait le classique poire roquefort en salade, des choses comme ça, on peut très bien remplacer le roquefort par le Morbier et qui va avoir un peu moins beaucoup moins de puissance quand même que le roquefort, qui plaira un peu plus aux enfants et on peut avoir quelque chose de très très sympathique. Donc ouais, comme je le dis à chaque fois et comme je le répète et je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, je pense, c'est goûter, faites des associations qui vous plaisent et le Morbier peut aussi bien se manger froid que cuit. Donc faites-vous plaisir et à vos imaginations, quoi.
Mais en parlant de le goûter, on te laisse le goûter, ouais. Jérémy. Bertrand, il nous a parlé de poire avec ce fromage.
De poire, oui, éventuellement. Mais moi, bizarrement, il m'a fait penser à un whisky que j'ai connu et que j'ai...
À consommer avec modération.
Bien évidemment, c'est ce que j'allais dire, à consommer avec modération. Un Islay, le Kilchoman, Machir Bay, qui est très légèrement fumé et qui est assez iodé. Et je pense que ça serait pas mal, petit verre de whisky avec ce petit Morbier-là. Voilà.
C'est vrai que ce serait pas mal, avec ce petit Morbier.
Moi, je serais parti plutôt sur un sec et peut-être iodé aussi, mais un sec, moi, plutôt, un whisky. Quoi. Ouais, parce que c'est quand même, ça apporte une autre texture, le truc. Et j'aurais pris quelque chose qui claque un peu derrière.
Bah, là, vous voyez, après dégustation et avec les réflexions que vous faites et les remarques que vous faites, là où c'est qu'on pourrait tester, c'est d'en faire une huître, de le travailler avec une huître chaude. Donc, une huître gratinée au Morbier. Ça pourrait être pas mal parce que si le côté iodé est sympa, mais je pense que ça peut être sympa le côté iodé. Du coup, c'est de faire une petite huître chaude gratinée au Morbier. Ça peut être sympa travailler avec un petit peu de fenouil et de poireaux dessous là.
Prochaine visite, on a déjà la recette. Prochaine visite, on a déjà la recette. On sort alors. il change des fois d'avis entre la première partie et la deuxième partie de l'émission. Donc là, on est en train de parler, on part à plusieurs semaines. Donc ça se trouve, il n'y aura plus d'huîtres hein, la prochaine fois.
Il n'y aura que la coquille.
Mais pour l'instant, il y a un projet. Il y a un projet d'huîtres.
C'est pas mal, ça me plaît. Moi, ça me plaît aussi.
Bernard, son Morbier.
Le Morbier est très bien. Je le connaissais aussi en raclette. J'aime beaucoup. Et je voudrais quand même faire une petite réflexion. Je reviens tous les vendredis, il n'y a pas de problème. Hein. Tu m'invites. Hein.
Et du coup, à la régie, ce Morbier.
À la régie, on le trouve très bon. Alors moi, je suis un grand fan. Je peux me faire des repas Morbier. Donc celui-là est excellent. Et alors là, je ne sais pas, mais je trouve que la croûte est très savoureuse. Je ne sais pas si celle-ci se mange ou pas.
Celle-ci se mange, ouais. Celle-ci se mange. Après, elle n'apporte pas autant que l'abondance, par exemple, comme tu as fait faire remarquer. Ouais. Après, on est sur un fromage souple. C'est gourmand. Moi, j'appelle ça gourmand. On a envie de pam pam. On s'arrêterait pas. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on peut vite avoir fait tomber un gros morceau. Et
peut-être, c'est même sûr. C'est peut-être le fromage le plus connu de ce plateau avec le reblochon. Quoi. C'est peut-être les deux fromages le plus grand public.
Ouais, l'abondance aussi va bien.
L'abondance
est connue. Hein. Quelqu'un ne va pas trouver l'abondance dans mon rayon. Il ne va pas la chercher d'ailleurs. Il va me demander un morceau d'abondance. Il ne va même pas me demander si j'en ai ou pas. Ouais. C'est quelque chose. C'est un peu comme les Cantal, comme les Comté. On ne va pas me le demander. On va me dire je veux un morceau d'abondance.
Après, c'est toi l'expert.
Après, vous connaissez le reblochon, parce que c'était celui que je vous aurais amené après dessus. Le reblochon, on connaît tous un petit peu. Après, ce goût de. Vous pouvez goûter le mien, c'est
alors,
ça
justement
plaisir.
Ce qui est intéressant sur les reblochons, au-delà du fait qu'effectivement c'est un fromage que tout le monde connaît, mais tu nous expliquais qu'il y avait une différence de pastille de couleur. C'est le reblochon, on pouvait faire une pastille verte ou une pastille rouge, et que ça, ça changeait tout.
Oui, ça change tout. C'est que la pastille, vous avez souvent une pastille rouge ou une pastille verte, et la pastille rouge vient donner, en fait, c'est un reblochon fruitier, et la pastille verte, un fermier. Et les goûts ne sont pas du tout, parce que ce n'est pas la même période hein, déjà où le lait a été tiré et affiné. Et derrière, en fait, on va être sur quelque chose de beaucoup plus goûteux sur le fermier. À l'occurrence, là, vous pourrez remarquer, souvent comme ces fromages-là, comme le Saint-Éclair d'ailleurs, on est sur des pâtes souples. Et c'est quand ils ont un peu de ventre qui commence à bomber un petit peu au niveau de la pâte que vous pouvez foncer quand vous voyez ça. Voilà.
Là, ils s'y mettent à plusieurs, ils ont attaqué la découpe du reblochon. Ils s'y mettent à plusieurs. On a Bertrand Gérardi et Jérémy Dacosta qui se sont mis à la découpe de ce reblochon. Donc du coup, là, pour le coup, on est sur une pastille rouge, sur une pastille verte.
Ah là, on est sur une verte. Mais alors, moi, je veux du goût.
Non, mais tu nous fais découvrir. Alors du coup, par rapport à entre la pastille verte et la pastille rouge, on va voir quoi comme différence fondamentale en termes de goût, de texture.
Le goût, parce que on est la bête a mangé autre chose. Elle a mangé de l'herbe. Donc du coup, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus goûteux.
C'est un fromage donc on peut consommer aussi cuit, puisque le reblochon on l'a notamment dans la tartiflette hein, que tout le monde connaît. C'est un fromage qu'on peut aussi consommer cru froid. Un fromage qui est fait pour être cuit.
Ah non, quand il est comme là, on n'a pas besoin de rien. Après derrière, si vous l'avez moins affiné...
Je vois Jérémy qui acquiesce avec la tête.
Ah ouais, non. Après, s'il est un peu moins affiné, tout ça, c'est facile. On peut le remettre, le revaloriser en l'amenant dans une tartiflette. Je pense pareil, en le répartissant bien, homogénéisement. Je n'arrive plus à le dire. Voilà. en créant un bel équilibre entre reblochon et tout ce qu'on peut mettre dans une tartiflette, on peut
l'affiner chez soi. Si on achète un reblochon, on s'aperçoit qu'on en a acheté deux, on s'aperçoit en découpant le premier qu'il est pigné. Est-ce qu'on peut affiner un fromage chez soi?
À cette période oui. Attendez demain, il fait un peu plus frais. Mais ouais, vous me le laissez en bas. Les odeurs, c'est pas grave. Vous me laissez un petit garage, un petit cagibier, quelque chose qui est semi-extérieur. Ouais. Vous me laissez là, il va se faire plaisir tout seul. Hein.
Ah c'est parfait, Jérémy, ce reblochon.
Alors moi je le trouve très goûtu pour le coup. Et alors oui, comme disait Alain, on peut très très bien le déguster tel quel. Moi, je trouve que c'est un fromage qui marche très très bien à froid. Et après, si vous voulez faire une petite version chaude pour changer justement de la tartiflette, des choses comme ça, une petite recette super simple. Et puis bon, comme c'est des recettes comme j'ai l'habitude de faire, où c'est qu'on fait de la prépa à l'avance, on peut se faire ça le dimanche en famille et puis après en profiter toute la semaine. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est faire une croquette de reblochon à la copa par exemple. Donc là, on va faire fondre le reblochon, on fait un petit roux, donc beurre farine, on fait un petit roux avec avec du lait, on fait une petite béchamel dans laquelle on va découper notre reblochon entièrement en morceaux. On le fait fondre directement donc dans notre béchamel, et on met beaucoup plus de reblochon que de béchamel bien entendu, et après on découpe de la copa qu'on va venir découper en lamelles, et on met ça dans un bac à glaçons, tu sais, les bacs à glaçons qu'on met dans la partie congélation, on met ça dans un bac à glaçons et on met ça à congeler. Une fois que c'est congelé, on les défait et après on vient les paner. On fait une triple panure, donc on fait farine, œuf, chapelure. On met au congèle, on refait farine, œuf, chapelure, on remet au congèle. Et la troisième fois, on fait que œuf et chapelure. Et après, on le garde au congèle. Et puis après, à la demande, on allume la friteuse. On met les croquettes dans la friteuse pendant 5 minutes. Et on sort ça avec une petite bouteille de rouge à consommer avec modération. Et ça passe très, 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 très bien.
Mais du coup, ta prochaine mission sera d'avoir fait les deux premières étapes de congélation. Qui reste plus que la troisième. Il faut qu'on puisse le faire en direct pendant l'émission.
On peut faire même que la partie friteuse avec Kibet Zemba.
En fait, on l'a la recette. Hein, ouais, on l'avait pas, mais là, ça vient tout seul en fait.
Ouais, on l'a pas fait en direct. Après,
le produit, on a les idées.
Ça,
en
mais
fait.
On a les.
C'est ça. Ouais, ça fuse.
Mais après, moi j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça, nous en restauration, professionnels de la restauration que nous sommes, quand on va faire nos courses ou quoi que ce soit, on part pas avec une. Alors, des fois, on part avec des idées bien précises, mais les trois quarts du temps, les menus du jour, on les a pas prédéfinis. C'est en voyant les produits, en goûtant les produits, en travaillant avec vous qui êtes les ambassadeurs de la nourriture et des produits bruts, mais vous allez nous faire déguster, et là c'est là où c'est que vont venir émerger nos idées et nos associations, et c'est comme ça qu'on crée des recettes qui sont tout juste sublissimes, moi je trouve.
On va être un petit peu pressé par le temps, on va faire l'impasse sur le reste du tour de table sur ce reblochon et on va passer sur le fromage suivant. Donc est-ce qu'on va sur ce fromage frotté à l'écœur de noix ou est-ce qu'on va aller sur ce
on va aller sur l'écœur de noix. Alors fromage, on est sur un producteur allemand et derrière, tout le monde connaît la tombe aux fleurs avec son affinage, tout ça, qui est un peu plus pressé. Et là, on va être sur souple, quelque chose d'un peu souple, un peu comme certains fromages bêtement, tout ça. On va être sur quelque chose de moins affiné, plus gourmand, et avec ce goût de liqueur de noix derrière qui vient bien rester en bouche. Encore une fois, un autre endroit encore, si je me rappelle bien. et c'est encore autre chose.
On retrouve quoi comme fleurs dessus sur ce fromage?
Ah, je sais pas les fleurs. Je suis pas du tout dans les fleurs. Ça me branche pas du tout.
On est vraiment sur les fleurs, quoi. On est vraiment sur.
Au départ, je pensais vraiment que ça allait être un produit qui allait vraiment toucher une clientèle féminine, mais qu'elles sont majoritaires aujourd'hui devant mes rayons. Mais ça touche beaucoup de monde. C'est étonnant. Et même les enfants, tout ça. Et c'est vraiment encore un fromage familial. On ne sait pas ce qui va plaire, mais paf, ça, on met ça, ça marche à tous les coups.
Chérie, je t'ai ramené des fleurs.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et on est passé par la fromagerie. C'est une pierre de coups. C'est un bon argument. Bertrand, ce fromage, c'est les fleurs, du coup, c'est très végétal.
Écoute, moi, j'aime beaucoup ce côté noix, curry. Pour moi, c'est une constante, la tombe aux fleurs. Je l'ai découvert il y a de nombreuses années, depuis que je suis au marché couvert d'ailleurs. Demain, ça fera 3 ans. Enfin non, ça a fait 3 ans récemment. Et du coup, ça passe partout. C'est très agréable. Il y a toujours cet effet surprise. C'est très bon. Et j'aime bien le côté très onctueux aussi. C'est rond, ça remplit bien la bouche.
Tu nous dis à chaque fois, Jérémy, quand sur des recettes, tu termines l'assiette en nous mettant des fleurs dessus. Tu nous expliques à chaque fois que tu mets rien dans l'assiette, ça sert à rien, c'est juste pour la déco. Et du coup, ces fleurs, est-ce que tu penses qu'elles apportent quelque chose? Moi, j'ai senti énormément la liqueur de noix.
Oui.
Finalement, j'ai pas senti tant que ça les fleurs dessus. Ça apporte un petit côté peut-être plus fruité à la croûte. Mais moi, j'ai la liqueur de noix qui domine.
Alors oui, moi aussi c'est pareil, j'ai la liqueur de noix qui vient bien me prendre la bouche, mais quand tu le mets vraiment en bouche, tu sens ce côté herbacé, tu sens le côté floral de la chose.
Il faut que je recommence.
Mais vraiment, ouais, mais vraiment au début tu as ce côté floral. Et moi j'avais un petit peu, j'étais un petit peu sceptique tout à l'heure, juste avant la dégustation, et c'est ce que je disais à Alain en off, c'est que c'est des fromages là que j'ai déjà eu l'occasion de déguster et sur lesquels j'allais pas forcément parce que trop prononcé justement côté fleur. Et là, tu vois, je le redécouvre. Et Alain m'a dit, vas-y, goûte quand même. Donc, j'ai goûté. Et là, tu vois, je suis agréablement surpris parce qu'il me transporte, il m'amène quand même avec lui. Après, la liqueur de noix, c'est vrai qu'elle est très présente.
Ouais.
Et je pense que c'est ce qui fait l'harmonie de ce fromage et qui crée cet équilibre. Parce qu'on serait très floral, je pense qu'on capterait beaucoup moins de gens.
Et puis moi, pareil, en tant qu'homme, déjà, les fleurs, manger des fleurs, je suis pas trop branché. J'aime bien la gastronomie, tout ça. Hein. C'est vrai que les fleurs, faut pas trop m'en mettre. Mais je reconnais, là, c'est pareil, il faut reconnaître qu'on a une qualité de travail, de souplesse. Ce petit goût de noix qui vient marquer, ces fleurs qui restent dans le creux des dents, ouais, c'est pas mal. Il a sa place. Il a sa place chez moi.
Gabriel Sarrouvergnac, est-ce que tu vas ramener un bouquet de fromage
à Oui, écoute, c'est une bonne alternative. Je pense qu'il ne va pas durer très longtemps le bouquet, mais ouais, ça, c'est bien présent, ça reste longtemps. Et j'ai l'impression que c'est celui où on a le goût le plus longtemps dans la bouche depuis le début de la dégustation.
Allez, juste un avis, Bernard, une dizaine de secondes, on va te laisser la parole derrière sur le brio truffe, parce qu'on va conclure là-dessus. Donc,
tu vas pouvoir t'en donner encore joie. Moi, je suis fan. C'est vraiment le fromage vers lequel je vais aller de suite. C'est la liqueur de noix, c'est certainement ce qui me convient le mieux à mon palais. J'adore. Voilà, c'est tout. Allez-y, foncez. J'adore. Pas trop, parce qu'il faut qu'il m'en reste un tout petit peu quand même. Mais allez-y.
C'est un fromage très bon. Alain, c'est un fromage qu'on retrouve toute l'année chez toi
Toute l'année. C'est saisonnier. Après, je vous cache pas qu'il arrive des certaines périodes. Où ils sont en fin de production, ça manque, c'est un petit producteur. Alors bon, quand quelque chose est bon, il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé. Je suis content parce que ce sont des fromages qui font parler de moi. Et ça, c'est hyper important. J'ai pas besoin derrière de. Ça va sur la table. Il y a des tables comme là, où on est 6-8. Ça discute et le bouche à oreille, là, ça va puissance 10 à chaque fois. Donc. Voilà, je suis content de me démarquer grâce à des découvertes comme ça et je prends beaucoup d'attachement à chercher ce genre de produit et je suis agréablement satisfait quand je tombe sur des produits comme
ça. Du coup, chez toi, on peut venir chercher bien sûr la qualité, la vie du fromager, des conseils et puis des produits un petit peu atypiques.
Ouais.
Alors, du coup, il n'y a plus de suspense hein, puisqu'on sait que c'est le dernier qui reste sur le plateau, c'est ce brie aux truffes. Là, on est sur un produit qui est déjà plus connu du grand public puisqu'en fromage aux truffes, c'est le premier qui vient à l'esprit.
Ouais,
ce brio truffe, c'est tout à l'heure Bernard nous disait attention sur le brio truffe parce que il y a une manière de le faire pour que ce soit fait correctement et qu'on profite au maximum de la truffe qui est quand même un produit qui est relativement onéreux donc faut faire ça bien si on veut en profiter au maximum profiter de ces truffes. Alors Bernard, ce brio truffe quand tu le vois, est-ce que tu te dis bon celui-là il a été bien fait?
Alors déjà il y a brie et brie. Donc, il faut faire très attention de ne pas partir avec des fromages un peu trop secs.
Alors là, on est sur quel type on remet la balle deux secondes à Alain pour qu'il nous parle de ce brie.
En fait, je voulais intervenir un petit peu rapidement parce que, attention, on n'a pas le droit, on parle entre nous, on n'a pas le droit d'appeler ça un brie à la truffe. Chez moi, ce n'est pas appelé un brie à la truffe, ça s'appelle un fromage à la truffe. Il faut savoir que brie s'est protégé justement de cette appellation parce qu'il y a eu du grand n'importe quoi qui a été fait où ça a été appelé brie à la truffe. Et du coup, on n'a pas le droit de l'appeler brie à la truffe. Voilà, quand on est entre nous, on se comprend, forcément, brie à la truffe, c'est ce qui vient. Mais voilà, c'est un fromage à la truffe. J'insiste bien là-dessus.
D'accord, donc du coup, mais c'est fait avec un brie.
C'est fait avec un brie, par mon producteur de brie, qui lui, déjà tout seul, a une identité terrible.
C'est un brie qu'on peut retrouver chez toi sous forme de brie sans truffe qu'on peut retrouver chez toi.
Ah oui, mais oui.
C'est le brie que tu proposes.
C'est le brie que je propose, c'est exactement la même.
Alors je vois Bernard qui acquiesce avec la tête. Là pour le coup, il a l'air ravi aussi.
J'ai la bouche pleine.
Comme tout le monde, je crois.
Agréablement pleine. Non, c'est. Il y a le brie, mais il n'y a pas que du brie. Il y a aussi du mascarpone. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que la truffe va se développer dans un corps gras, que le brie, ou le fromage, a son importance, puisqu'il va être pris en sandwich au milieu de tout ça, mais la truffe a besoin de ce mascarpone pour pouvoir développer tous ses arômes. Le fromage ne suffirait pas par lui-même. Donc ces trois associations vont faire qu'on a effectivement un fromage qui développe tout, la truffe, et on est toujours sur une truffe d'été.
On est toujours sur une truffe d'été, et pareil, voilà. Je pense que pour la diffusion de la truffe, c'est pas en trois jours qu'elle va se diffuser. Donc là aussi, il faut laisser un peu de temps. Idéalement, trois semaines, ça commence à le faire.
Ça commence à bien parler.
Alors trois semaines, oui. Il faut faire attention au niveau de la truffe. Si c'est de la truffe fraîche, n'allez pas au-delà de trois semaines.
Oui, exactement. Et puis la variété aussi de la truffe, ça, qui fait que...
Alors après, il y a la variété de la truffe. On va arriver sur les périodes d'hiver, où là, on peut faire aussi effectivement la même chose avec de la truffe noire du Périgord.
Là, sur les quantités, on en met beaucoup moins du coup quand on est sur la truffe.
On en met moitié moins parce qu'on a la puissance. Et pour les puristes, j'ai aujourd'hui des gens avec qui je travaille qui le font eux-mêmes et qui vont avoir donc la truffe d'hiver pour la puissance et la truffe d'été pour la longueur en bouche. Dans ce type de fromage, ils ont le droit de mélanger, les chefs ont le droit de mélanger les truffes. Nous, au niveau de nos produits transformés, on n'a pas le droit. Mais l'association des deux truffes, et là on arrive sur la période d'hiver où on va avoir de la truffe noire du Périgord, ça vaut le coup quand même.
Et du coup, le fait d'en mettre deux fois moins, alors c'est une truffe qui d'un point de vue tarif est beaucoup plus élevée que la truffe d'été, oui. Mais le fait d'en mettre beaucoup moins, ça permet de garder un coût équivalent ou un petit peu plus élevé.
Ouais, on va être honnête, hein, ça reste quand même un peu plus élevé, mais le goût est différent. Je crois que si on veut s'amuser, moi j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, d'avoir des fromages avec des truffes différentes, on se surprend à avoir des goûts, mais alors totalement opposés. Donc on peut s'amuser à marier les produits, on peut s'amuser à les faire séparément, on peut faire de la truffe d'été, de la truffe d'hiver... sur la période de Noël, il n'y a pas de souci.
Du coup, ce brio truffe de la fromagerie chez Christine, est-ce que tu valides, Bernard? Est-ce que notre expert truffe a validé?
Validé.
Allez, c'est validé, Bertrand.
Moi, j'avais une question. Brie de melun ou brie de mont?
Comment?
Brie de mont ou brie de melun?
Ah, brie de mont.
Brie de mont.
Je ne vends que ce que j'aime. Comme je disais tout à l'heure, le brie de melun, je n'ai pas d'affinité. Et je ne me vois pas le vendre parce que je n'accroche pas sur le produit. Je laisse aux voisins ou aux concurrents faire le melun. Il y a de la place pour tout le monde.
Et le dernier pour ce tour de table. Ah non, on n'a pas eu l'avis de. On n'a pas eu l'avis de notre chef, Jérémy Dacosta.
Bah, pour moi, de toute façon, entre parenthèses, un brie truffé.
fromage truffé.
Ouais, voilà, un fromage truffé. Moi, j'adhère toujours. Après, c'est des choses, moi, je trouve là sur les périodes de fin d'année qui marchent très très bien, qui apportent énormément de gourmandise. Le mascarpone amène un plus, parce qu'on parle beaucoup de la truffe, on parle beaucoup du riz, mais c'est vrai que le mascarpone, on le dit, ouais, il est là pour faire exploser la truffe, mais moi je trouve qu'il apporte quand même ce côté gras, ce côté onctueux. Il amène un petit côté plus aussi au brie, qui est super sympa, et sans lequel rien ne serait possible, entre guillemets. Donc moi c'est des produits que j'adore, et la seule chose que moi j'y mettrais peut-être par-dessus pour réveiller encore un petit peu plus, c'est les 2-3 graines de fleur de sel.
Ah ouais, tu rajouterais du sel.
Ouais, rajouterais 2-3 graines.
C'est parce que t'as envie de tomber sur le grain de sel.
Mais ouais, parce que quand tu vas l'éclater, il va venir t'exploser la truffe encore plus. Okay. Et tu auras encore plus ce goût truffé.
Écoute, j'essayerai.
Ouais.
Là, c'est un problème. Je suis curieux.
Allez, un tout petit seconde, le mot de la fin à la régie sur ce plateau de fromage, pour avoir l'avis de Gabriel qu'on n'entend pas souvent.
Je voulais te remercier pour cette belle dégustation de fromage. Non, on a passé un super moment et on finit en beauté, voilà, avec le fromage des fêtes.
Parce qu'on finit d'habitude par la dégustation, mais là, en fait, on a fait une émission de dégustation. Comme c'est le moment préféré de tout le monde dans cette émission, on a fait toute l'émission avec que des dégustations. Merci Alain Séjudeau de la fromagerie chez Christine au Marché Couvert. Donc, on peut te retrouver du mardi au dimanche, dès 7h le matin et jusqu'à 13h. Et ensuite, le vendredi et le samedi, on te retrouve aussi les après-midi de 15h à 19h. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Merci aussi à Jérémy Dacosta de nous avoir accueillis, comme chaque semaine, dans les cuisines de Cooked avec Damien Giraud. Vous pouvez venir la rendre visite. Hein, c'est au 16 rue de la rue Voltaire. C'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. Vous pouvez les appeler pour réserver au 05 53 95 14 42. Il y a un menu du jour à découvrir chaque semaine, mais aussi des offres emportées. Vous avez des sandwichs, vous avez plein de choses que vous pouvez emporter, des quiches, vous avez des pâtisseries, vous avez aussi une épicerie fine.
Dis pas des quiches.
Non, tu fais pas des quiches.
Non, dis pas des quiches parce que j'ai tout le monde qui passe la porte en disant vous avez des quiches, on fait pas de quiches.
Alors des tartes salées. Des tartes salées. Ouais, on retrouve des tartes salées. De magnifiques tartes salées. Alors pas des quiches, que des tartes salées. Et une épicerie fine où vous pouvez trouver des produits à emporter chez vous, une cave à vin, vous trouvez aussi des spiritueux. Merci à Gabriel Sarouverniak derrière la régie qui aujourd'hui est un peu passé aussi de l'autre côté du micro puisqu'il a participé avec nous.
Merci à toi.
À la dégustation parce qu'on est quand même sympa, on n'a pas fait la dégustation devant lui sans le faire participer. Vous pouvez retrouver La Quotidienne sur Radio Bulle tous les jours, du lundi au vendredi, dès midi sur le 93.6. Quant à moi, comme chaque semaine, je vous retrouverai le lundi midi dans votre quotidienne et le vendredi avec Jérémy Dacosta chez Cooked dans leur cuisine pour une quotidienne gourmande. À la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur radiobulle.net.